magazine des voyages.
C'est un peu paradoxal d'avoir effectivement une région qui n'est pas connue pour avoir eu le moindre lien avec l'histoire négrière des colonies et de l'esclavage, et d'y avoir vu cette route des abolitions dans l'Est, là où on ne les attend pas. On a des personnages quand même extrêmement importants. Sur 5 sites, il y a 3 personnages au Panthéon. Donc on retrace toute l'histoire du processus des abolitions d'esclavage avec tous les mouvements, toutes les influences et toutes les dates importantes dans l'histoire de France et tous les personnages importants qui ont été acteurs de cette mémoire. Et quand on a la chance pour des petits villages d'incarner une petite partie de l'histoire de France, c'est une fierté très forte.
Bonjour, cette semaine, à l'occasion des 170 ans de l'abolition de l'esclavage en France, on va prendre la route tout à l'est de l'Hexagone. Un endroit, comme vient de le dire Philippe Pichot, coordinateur de la route des abolitions de l'esclavage, où c'est vrai, on ne s'attend pas à retrouver cette histoire. Et pourtant, depuis 1998, loin des côtes atlantiques françaises et de leurs ports négriers, loin de l'Afrique, des Caraïbes et des Amériques, où pendant 4 siècles, la traite occidentale a sévi, un chemin touristique et mémoriel, la route des abolitions donc, emmène, en France, le voyageur à la rencontre de figures abolitionnistes et humanistes. Et c'est Cyrielle Bedu qui s'est lancée pour nous sur cette route méconnue qui compte pourtant 5 sites historiques. Parmi eux, Champagné, dans la Haute-Saône, une petite commune de 4000 âmes, où dans les années 60, on a retrouvé la trace d'un étonnant document condamnant l'esclavage à la veille de la Révolution française. Première étape donc, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme de Champagné, où Élodie Lambert, responsable des collections, a accueilli Cyrielle devant ce fameux document.
Les habitants et communautés de Champagné ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur en se représentant leurs semblables, unis encore à eux par le double lien de la religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent avec raison que les générations futures, plus éclairées et plus philosophes, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de Français et encore plus celui de chrétiens. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter les moyens pour, de ces esclaves, faire des sujets utiles au roi et à la patrie. C'est la reproduction de l'article 29 du cahier d'Oléance de Champagné.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux visiteurs qui arrivent dans ce lieu et qui voient ça pour la première fois ?
Alors, j'insiste déjà sur le caractère exceptionnel du document. On est en 1789, le 19 mars très exactement. On est à quelques mois de la prise de la Bastille et à ce moment-là, l'esclavage est noir, son plein. Il est normal et légal d'avoir des esclaves. Et d'ailleurs, juridiquement, dans les colonies qui dépendent de la France, avec le code noir, on considère que ces esclaves, ce sont des biens mobiliers. Donc, l'humanité leur est déniée et les gens de Champagné font déjà preuve d'un esprit extrêmement avancé en considérant les noirs comme des semblables. Mais ce qui est surprenant aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas confrontés à cet esclavage. C'est le lot des colonies à des milliers de kilomètres de là. Nos champagnereaux, c'est comme ça qu'on appelle les habitants ici, ils sont pour l'essentiel des paysans, des mineurs, des bûcherons, des verriers. C'est beaucoup des gens qui sont attachés à cette terre et qui ne sortent pas de cette terre. Donc une connaissance du monde extrêmement limitée, et d'autant plus limitée que beaucoup d'entre eux sont illettrés. Donc la question qui se pose finalement, c'est comment ils se sont emparés de ce sujet. Il n'y a pas de certitude quant à ce qui s'est passé, mais le fondateur du musée qui est présenté aussi dans cette première salle...
Donc on voit une pancarte à droite de l'entrée.
Voilà, son portrait, il s'appelait René Simonin, a fait des recherches sur le contexte de la rédaction de ce document. C'était un passionné d'histoire locale, puisque vous voyez en dessous du portrait...
Donc on a une vitrine, oui.
Avec les ouvrages... qu'il a écrit, et celui qui concerne en fait le geste des habitants de Champagné, c'est le problème noir au XVIIIe siècle.
Vu par des paysans comtois.
Voilà, ces paysans comtois étaient donc les habitants de Champagné qui se sont indignés dans leur cahier d'oléances de cet esclavage. Il y a eu à peu près une soixantaine de cahiers qui se sont emparés du sujet sur les 60 000 rédigés. Mais aucun ne va aussi loin qu'à Champagné. Et donc dans ce petit opuscule, hein, il compte une dizaine de pages, René Simonin avance l'hypothèse que ces gens de Champagné, de même, ils n'auraient pas écrit le texte, non par indifférence, hein, mais par ignorance, et que s'ils l'ont fait, eh bien, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'avoir avec eux un homme instruit, imprégné des idées abolitionnistes. Car l'esclavage commence à être contesté en 1789.
Et donc ce notable dont vous me parlez.
Donc ce notable dont je vous parlais, il s'appelait Jacques-Antoine Priclet. Il était à l'époque capitaine des gardes du corps du roi, donc il vivait à Versailles, et le hasard a fait qu'il était là au début de l'année 1789. Et donc, le 19 mars, les gens de Champagné procèdent à la rédaction de leur cahier de plainte. Hein, c'est ça, les cahiers d'oléances qui étaient demandés par le roi. On a en fait, le 24 janvier, la décision royale de convoquer les États généraux. La demande de cahier d'oléances est relayée en fait le 15 mars dans la plupart des églises de France. Et donc, dans les jours qui suivent, mars-avril 1789, un petit peu partout en France, les gens se réunissent, abordent leurs difficultés et écrivent leur cahier d'oléances. Et donc, Priclet a dû profiter en fait de cette réunion pour diffuser les idées abolitionnistes, et les gens de Champagné sont cibles, peut-être parce qu'ils souffrent même, peut-être parce que c'est le notable, peut-être parce qu'ils connaissent un noir peint sur un tableau de leur église, ont ajouté cet article 29.
On peut se rendre à l'église ?
Si vous voulez, on va y aller.
Alors, rendons-nous à l'église.
Je prends des clés parce que je pense que mon collègue va. Merci, monsieur. Au revoir. Merci.
Alors, Madame Marie-Claire Fèvre, vous êtes maire de Champagné et vous êtes aussi présidente de la Route des abolitions de l'esclavage et des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes posé la question du pourquoi ? Comment, dans une petite ville, un village même de l'est de la France qui est loin des ports négriers, où les gens n'ont très probablement jamais vu de noir de leur vie, est-ce que vous vous êtes demandé comment est-ce qu'ils ont pu se sentir tant concernés par cette question-là ?
Ben, on pense actuellement que les gens de l'époque avaient quand même le cœur sur la main. Donc derrière ça, ils vivaient aussi des choses très difficiles sur le secteur. La Franche-Comté était envahie à plusieurs reprises, sur Champagné, les guerres ont fait rage également. Et puis les gens vivaient de très peu. Donc je pense qu'ils se sont émus de la situation de ces Noirs dans les colonies, alors qu'eux, ils avaient une situation, non pas d'esclaves, mais une situation difficile aussi à vivre. Et je pense qu'imprégnés de la difficulté de vivre, eh ben, on pouvait effectivement s'émouvoir que d'autres ailleurs pouvaient aussi souffrir. Ici sur Champagné et sur Ronchamp d'ailleurs, on a eu aussi une population de gens qui travaillaient dans les mines. Donc la solidarité était de mise dans ces travaux quand même pénibles de la terre, où il fallait quand même s'entraider pour pouvoir continuer à vivre décemment. Donc je pense qu'il y a ce tissu-là fait que effectivement l'Est de la France est peut-être plus porté à promouvoir ce genre de choses et à se tourner vers l'autre.
Vous voyez, la maison avec les sapins, enfin qui est cachée par les sapins, c'est la demeure de l'officier Priclet dont nous avons parlé tout à l'heure.
Donc on voit que c'est un notable, c'est quand même une très jolie maison.
Oui, oui, c'est une très belle maison.
Et donc là, juste
là, vous arrivez donc devant l'église qui est à 100 mètres de la maison d'Anéguitude, qui est quasi contemporaine de la rédaction du cahier d'oléances de Champagné parce qu'elle était construite entre 1785 et 1788.
D'accord.
Alors c'est une église qui est vraiment dans le style local. Hein. Vous voyez, elle est en grès des Vosges, elle a un clocher comme on dit à l'impérial, c'est les fameux clochers comtois avec les tuiles vernissées. Donc on est dans le cadre même de l'histoire, puisque la décision en fait, de convoquer les États généraux et de faire écrire des cahiers d'oléances a été relayée dans les églises de France. Donc on peut imaginer sans doute le prêtre dans cette très belle chaire faisant cette annonce.
Et donc la légende dit qu'il y a un tableau dans cette église qui les a particulièrement sensibilisés à la question de l'esclavage.
C'est ce tableau.
On peut s'approcher.
On va s'en approcher. C'est en fait un tableau qui date de la Renaissance. C'est une peinture sur bois Alors, je vous invite surtout à ne pas le toucher parce que...
Oui, ouais, il est bien protégé.
Voilà. Et en fait, le tableau rappelle l'arrivée des rois mages et les présents donnés à l'enfant Jésus. Et vous voyez, à l'extrémité du tableau, ils se fondent quasiment dans le décor. Vous avez le roi mage Balthazar.
Qui est noir, donc.
Qui est noir. Hein, ce noir, il le voyait tous les dimanches en assistant à la messe. Et il a pu leur servir effectivement de fil conducteur à leur réflexion. Certains sont peut-être venus à cet endroit le voir.
Donc on sort par la grande porte.
Oui, on sort par la grande porte. Comme ça vous permettra d'admirer le clocher.
Alors, du coup, on a parlé donc, de l'écriture de ce cahier de doléances, de ce fameux article 29. Mais on n'a pas parlé de ce qui s'est passé après qu'il ait été envoyé donc, à Paris, parce que c'était son but, à Versailles, oui. Qu'il soit envoyé au roi.
Oui, mais malheureusement, il n'est pas allé jusque-là, puisque à Versailles, seule une synthèse de l'ensemble des cahiers de doléances a été rédigée. Donc voilà, le cahier a fait 40 petits kilomètres et il est resté à Vesoul. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait qu'une reproduction. L'original est conservé aux archives départementales de la Haute-Saône à Vesoul.
Donc on peut considérer qu'à Vesoul, un administrateur ait considéré que cet article n'était pas digne d'intérêt.
Il a pu être mis à l'écart à cause de son contenu. Le cahier restait lettre morte, mais ça n'ôte rien à la valeur du geste courageux des habitants de Champagne.
À la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme de Champagne, on ne se cantonne pas à cette énigme de l'article 29, même si elle a passionné bien des érudits locaux sur place. Là-bas, parmi des statuettes africaines, on honore la mémoire de Léopold Sédar Senghor, parrain de ce petit musée ouvert en 1971. On célèbre aussi Martin Luther King et le combat pour les droits civiques, et l'on s'efforce surtout de retracer l'histoire des luttes contre l'esclavage. L'esclavage, un système effrayant, une économie très lucrative, une machine à broyer des vies qui, implacable, avance au moyen d'une arme, le bateau négrier.
C'est plutôt un pont de bateau dans lequel on voit deux fosses. Ces deux fosses, c'est l'entrepont. C'est en fait la partie qui va évoluer sur le bateau négrier au gré des escales et des échanges. Si vous regardez sur la fosse la plus éloignée de nous, hein, vous voyez des produits qui y sont présentés, des produits agricoles comme le sucre, le café, le coton. C'est la raison de l'esclavage des Noirs, hein, puisque après la découverte des Amériques, on va développer ces plantes qui vont être dans un premier temps cultivées par les Indiens qui sont en situation d'esclavage, puis très vite par les Noirs qui vont être importés par le biais du commerce d'esclaves. Ensuite, vous avez entre les deux fosses des fers qui vous sont présentés, des fouets. Elles illustrent le travail forcé sous la menace constante des punitions qui attendent en fait les esclaves dans les colonies.
On a aussi des chaînes qui sont pendues au mur.
Et puis vous avez ensuite une fosse qui vous présente l'entassement des esclaves pendant la traversée.
Et donc là, on les voit, c'est un mélange entre des sculptures et des mannequins. On voit des...
Alors en fait, c'est des sculptures. Hein. Elles montrent aussi les conditions de transport de ces esclaves, puisqu'on entassait au maximum les esclaves, on les enchaînait, du moins pour les hommes, pour éviter qu'ils ne se révoltent. Et il faut ajouter à cela donc, la quasi-obscurité, la chaleur, la puanteur qui faisait qu'en moyenne, sur un bateau négrier, il y avait 20% des esclaves qui périssaient.
Et ensuite, il y a la période qui nous intéresse, qui est les préludes de la liberté, l'opinion des philosophes.
Oui, on va parler par exemple de l'abbé Grégoire ou de Victor Schœlcher qui ont contribué à la disparition de l'esclavage des Noirs. Alors, cette lutte contre l'esclavage, elle commence très tôt. Elle commence en fait dès que les premiers esclaves arrivent aux colonies. On a une résistance à l'esclavage qui est le fait des esclaves eux-mêmes. Mais il faut attendre véritablement le XVIIIe siècle pour qu'en Europe, on voit les premières voix s'élever. C'est d'abord les philosophes qui vont détruire l'argumentation qui justifiait l'esclavage. Vous avez quelques portraits qui vous sont présentés.
Donc on a Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot.
Et puis des gens comme Condorcet ou Bernardin de Saint-Pierre. On découvre ensuite la mise en place véritable du mouvement abolitionniste qui se fait avec la création des sociétés des Amis des Noirs partout à travers le monde, sur le modèle britannique. En France, c'est la fameuse société des Amis des Noirs qui se crée en 1788 et dans laquelle on a notamment Lafayette, Condorcet, Grégoire, Mirabeau, etc. Donc eux militent pour la disparition non pas de l'esclavage, mais du commerce de traite.
C'est ce qui est une différence. Enfin, c'est pas la même chose.
Le commerce de traite, c'est le fait effectivement d'aller chercher les Noirs, de les emmener pour travailler, et puis l'esclavage, c'est le fait de les exploiter. Les deux sont indissociables, surtout au départ de l'esclavage, puisque la main-d'œuvre est toujours importée. Par la suite, du fait de la transmission de la situation d'esclave par la mère, il y a une reproduction naturelle des esclaves qui est plus ou moins encouragée selon les époques. Mais l'idée, c'est que si on met fin au commerce de traite, à un terme, l'esclavage mourra de lui-même. Et puis, il y a aussi peut-être la volonté de la part de ses amis des Noirs de ne pas se mettre à dos les colons en prônant trop vite peut-être l'abolition de l'esclavage. Donc, on est pour une abolition qu'on dit progressive.
L'abolition progressive, graduelle, c'était au départ la conviction. En Angleterre, mais aussi outre-Atlantique, où dès 1777, le nord des États-Unis va émanciper des esclaves. Les Quakers, un groupe religieux protestant et dissident, vont en effet très tôt condamner la traite dans les colonies anglaises d'Amérique. Fin du XVIIIe siècle, les révolutions naissent, aux États-Unis comme en France, et les idées des Lumières éclairent le monde de part et d'autre de l'Atlantique. Certains se déclarent alors amis des hommes de toutes les couleurs. C'est le cas de l'abbé Grégoire, grande figure de la Révolution française pour qui l'esclavage était une insulte à l'humanité. Il va œuvrer d'ailleurs pour la première abolition française de l'esclavage en 1794. Aujourd'hui, en France, on retrouve la trace de cet homme d'église sur la route des abolitions dans un petit musée qui lui est consacré à Amberménil, en Meurthe-et-Moselle. C'est là que François Bir, conservateur passionné, attend Cyrielle au cœur de ce petit village de 250 habitants en fin de nos jours.
Au dire des historiens du temps du père Grégoire, la commune comptait environ 490-520 âmes. Bon, ici on se trouve devant ce qu'on appelle le mémorial de l'abbé Grégoire. Il a été inauguré en l'an 2000.
Donc là, juste devant le musée, on a une stèle avec un buste de l'abbé Grégoire.
Oui. Ici, vous avez une citation de Grégoire, « Vivre n'est rien, vivre libre est tout ».
Alors rentrons dans ce musée. Oui. Vous êtes à l'initiative de la création de ce musée.
Oh, j'ai fait beaucoup de choses ici, oui, mais je suis pas seul. Hein.
Entrons.
Bon, on passe aux vitraux. Oui, ce qui fait la particularité de notre petit musée, puisqu'on n'avait rien à montrer au départ, ce sont 12 petits vitraux qui, tels une bande dessinée, vont évoquer l'œuvre et la vie du personnage. Voilà.
Donc là, sur le premier vitrail, on y a marqué donc VO, ville de naissance.
Ici, vous avez la naissance de Grégoire, 4 février 1750 à VO. Grégoire va rester, donc il arrive, il a un peu 8 ans et quelques, à Amberménil, chez l'abbé Cherrier, qui avait créé ici, en Amberménil, un petit collège. Donc ici, on voit Grégoire au tableau noir en train de tracer des figures de géométrie.
On voit sur le vitrail, effectivement, Grégoire en train de faire des mathématiques sur un tableau avec d'autres élèves.
Oui, et il quitte Amberménil, il a tout près de 14 ans. Hein, il a 13 ans et demi passé. On l'envoie chez les jésuites à Nancy. Il aura de bons professeurs, notamment le père Gautier, qui va lui faire faire la connaissance du chevalier de Solignac. Et ce sont ces deux hommes qui vont initier Grégoire à la question des Juifs du Grand Est de la France. Plus tard, quand Grégoire sera passé par Versailles et Paris, eh bien, il va s'occuper des Juifs de l'ensemble du royaume de France.
Quelle était la particularité des Juifs à l'époque? Ils n'avaient aucun droit civique.
Ah non, ils étaient, disons, tolérés, mais à peine tolérés. Hein.
Pas de droit de commerce, pas le droit d'avoir des terres.
Non, ils avaient juste le colportage, pratiquaient l'usure, mais s'ils étaient pris, ils étaient punis. Hein, ils vivaient vraiment de peu de choses. Bien, Grégoire s'ordonnait le prêtre le 1er avril 1775. Grégoire arrive le 5 mai 1782 et prend possession de la maison curiale d'Amberménil. Là, vous le voyez à sa table de travail.
Sur le vitrail, en haut, il travaille dans l'église.
Bon, derrière lui, vous voyez une petite charrue. Ça symbolise l'attachement qu'il a toujours apporté aux gens qui travaillaient la terre. Bon, vitrail qui évoque les élections de Grégoire aux États généraux. Quand Grégoire arrive aux États généraux, ce n'est pas un inconnu. Il a déjà écrit son ouvrage sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.
Et donc il arrive aussi pour porter cette défense des Juifs. Oui. C'est à Paris qu'il se familiarise avec la question de l'abolitionnisme de l'esclavage.
Voilà.
On a un vitrail consacré à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Tous les historiens sont d'accord pour l'article 1. Les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit, c'est l'abbé Grégoire.
Oui, ils sont d'accord pour dire que c'est lui qui est à l'origine de cet article-là.
Oui. Les citoyens de couleur, qui sont le peuple, des véritables sans-culottes dans les colonies, se sont battus comme des héros. Ils s'écriaient « Nous sommes nègres français et nous allons combattre pour la liberté !» Vous verrez que votre colonie de Saint-Domingue sera bien plus florissante, cultivée par des mains libres. Et vous trouverez plus de profit à faire du négoce avec les gens de couleur qu'avec les planteurs contre-révolutionnaires qui se disaient vos amis, mais qui vendaient, oui, qui vendaient la colonie aux Anglais. Législateurs, on calomnie les Noirs, on envenime toutes leurs actions parce qu'on ne peut plus les opprimer.
On va continuer. Donc on monte des marches et là, bon, il y a un autre vitrail. Donc lui, il est consacré à l'abolition de l'esclavage.
Ici, on retrouve le sceau de la Société des Amis des Noirs.
Donc il y a marqué « Ne suis-je pas ton frère ?» Oui. Et il y a un esclave qui est enchaîné.
Bien sûr, on a mis Grégoire, non seulement parce qu'il était le curé d'Ambermesnil, mais parce qu'il a été longtemps le président de la Société des Amis des Noirs. Donc, on sait que la Convention nationale avait voté le 4 février la première abolition de l'esclavage.
1794.
Oui, voilà. Quand l'abolition du 4 février a été votée, 72 heures plus tard, dans toutes les villes portuaires de France, on brûle des effigies de l'abbé Grégoire. 12 semaines plus tard, quand la nouvelle arrive aux Antilles, on va pendre devant les portes des maisons des mannequins qui représentent le curé d'Ambermesnil. Oh, c'est un simple tissu noir avec un peu de paille ou de foin séché à l'intérieur. Et à Nantes, on va ouvrir une souscription secrète afin de faire assassiner Grégoire.
À Nantes, grand port négrier.
Oui, mais ça va échouer, ouais. Heureusement. Hein, je dis ça parce que je pense à Victor Schœlcher, la deuxième abolition. Il n'a pas subi tous ces affres-là.
Ici, c'est un petit musée que vous avez contribué à mettre en place. Vous avez réussi à rassembler des petits tableaux, des reproductions, des facsimilés de lettres. Il y a pas mal de choses sur l'esclavage. Là, on voit des chaînes d'anciens esclaves.
Authentiques, qui viennent des Antilles.
Et vous avez dédié une partie de votre vie, du coup, à rassembler tous ces objets ?
Oh, ben moi, ça fait depuis 88 que je me démène pour l'abbé Grégoire.
Voilà. Pourquoi ?
Ben, parce que je trouve ça un homme qui est méritant. Je pense que c'est la plus belle figure de la Révolution, car il a fait énormément de choses. Il n'y a pas que le combat pour les Juifs, les Noirs. Mais à côté de ça, il a touché à tout. Je trouve qu'il y a une petite fierté derrière tout ça. Parce que je pense que le personnage vaut quand même d'être mieux connu. La remarque de la plupart des gens, quand ils sortent du musée, nous disent « Mais comment se fait-il que cet homme n'est pas plus connu ?» Voilà. Allez. Bon, vous allez à votre voiture ?
Oui, je vous suis.
Que je baisse la grille. Là, je vous souhaite une bonne continuation et bon périple sur votre séjour dans le Grand Est.
Merci. Au revoir. Rentrez bien. Allez. Au revoir.
Et en chemin, sur cette route des abolitions, qu'est-ce qu'on écoute, tiens, en voiture ? Certainement pas les chansons antillaises d'un autre temps écrites à la gloire de Papa Schœlcher, le père de la seconde abolition, on en reparlera. Sur RFI, on préfère plutôt voyager au fil du temps avec Bibi Tanga.
Mon pas est comme le pas du cheval pur sang de la razzia qui m'arrache au cœur de ma tête. En me jetant au-delà de la mer, chez l'étranger, pour arracher le coton. J'ai dit non, mais le fouet a eu raison de moi. Au fil du temps, au fil du temps. Pensera-t-il un jour m'appeler orphelin que je suis à jamais blessé à temps. J'ai laissé de la sueur et du sang au fil du temps. Au fil du temps. sang de la razzia qui m'arrache au cœur de ma terre en me jetant au-delà de la mer chez l'étranger pour arracher le coton. J'ai dit non, mais le fouet a eu raison de moi. Au fil du temps, 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 au fil du temps.
Auparavant, avant 98, personne ne s'intéressait à cette histoire. Elle était tellement occultée, marginalisée, oubliée, elle n'avait aucun intérêt. Et en 98, ben, comme il y a eu cette actualité du 150e anniversaire et une fenêtre de tir médiatique, le gouvernement a choisi Champagney comme site de commémoration nationale. Donc on s'est dit, il faut qu'on se mette ensemble. Chaque site isolé est très faible et n'a aucun intérêt. C'est une anecdote perdue au fin fond du cul de la France. C'est pas une histoire de passionnés d'histoire qui s'amusent entre eux, bien au contraire, non, non. Ça va jamais très très loin. Les élus ont dit, on a une responsabilité politique très forte. Donc ça veut dire que ça nous oblige à veiller sur cette mémoire, à la valoriser, à l'entretenir, à la pérenniser. C'est comme ça qu'est née la route des abolitions et qui, en une décennie, a accueilli à peu près 300 médias internationaux et nationaux avec les plus gros magazines des communautés noires du Brésil, des États-Unis, les plus grands quotidiens. On a accueilli plus de 150 personnalités, des chefs d'État, du Burkina Faso, du Sénégal. Nous sommes des petits sites assez modestes dans leur réalisation, etc., mais qui ont une puissance émotionnelle, une symbolique très forte. Quand vous êtes dans le cachot où est mort tout sans l'ouverture, c'est un moment extraordinaire. Quand vous êtes dans découvrez l'histoire de l'abbé Grégoire, vous êtes pris effectivement, et puis vous lisez tous les grands antillais glissants, Césaire ont adulé tout sans l'ouverture, Grégoire, Schœlcher, tous les leaders des indépendances africaines avec comme modèle tout sans l'ouverture. Donc effectivement, ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils traversent l'Atlantique sans hésitation. C'est un voyage, c'est un pèlerinage, c'est un lieu mythique. Et on n'a pas fait l'apologie, contrairement à ce qui s'est dit, parce que c'était aussi un combat, notamment de nombreux intellectuels antillais, anti-Schœlcher, de dire on a fait que l'apologie des grands blancs. Non, on a commencé par faire l'apologie de qui en France, en matière immémoriale, tout sans l'ouverture. Et aujourd'hui, quel est le site moteur de la route des abolitions de l'esclavage? Le château de Joux, aux morts, tout sans l'ouverture. C'est tout sans l'ouverture.
Pour en savoir plus sur Toussaint Louverture, grande figure émancipatrice des Noirs, héros du mouvement anticolonialiste et abolitionniste, il faut sur cette route prendre la direction, cette fois, du Fort de Joux, situé dans le Doubs. Philippe Pichot vient nous en parler. Là, à la lisière de la Suisse, perché sur un éperon rocheux, s'élève une solide forteresse, jadis château médiéval, puis prison d'État sous l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire. Les lieux sont chargés d'histoire et nous renvoient à la période de 1791, quand les esclaves de la colonie de Saint-Domingue arrachent leur liberté au pouvoir français. Toussaint Louverture, ancien esclave affranchi, devenu général d'armée française, puis gouverneur de Saint-Domingue, va mener cette révolution haïtienne. Mais il ne verra pas son issue, soit l'indépendance d'Haïti, la première république noire libre du monde en 1804. Car entre-temps, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage, fait prisonnier Toussaint Louverture et l'a envoyé en métropole, justement au Fort de Joux. Marcel Dorigny est historien spécialiste de l'esclavage.
Le Fort de Joux est un des endroits les plus éloignés du territoire français de toute mer. On a mis Toussaint Louverture le plus loin possible d'un port, au cas où on voudrait venir le libérer, où il pourrait s'évader. C'est à 1000 mètres d'altitude, dans une région qui est la plus froide région de France. Pas très loin du Fort de Joux, il y a un village qui s'appelle Kemout, qu'on appelle la Sibérie française. Donc Fort de Joux, c'est très froid en hiver. Très isolé, 1000 mètres d'altitude, le froid.
C'était un symbole fort, du coup, pour Napoléon de mettre Toussaint Louverture dans cet endroit-là, symboliquement.
Oui, c'était à la fois un symbole de l'éloigner le plus loin possible, c'était un symbole de l'avoir fait prisonnier, puisque Toussaint Louverture avait eu l'ambition, la prétention de s'appeler le Napoléon Noir. Et cette fameuse lettre qui a beaucoup vexé Napoléon, bien entendu, se considérait pas du tout comme l'équivalent, comme l'égal d'un noir ancien esclave.
Parce qu'avant d'être emprisonné, donc, Toussaint Louverture avait écrit à Napoléon pour accompagner la Constitution, il me semble, la Constitution de Saint-Domingue.
Voilà, la Constitution de Saint-Domingue. Alors, il faut rappeler que sous la Révolution, après l'abolition de l'esclavage, dans la Constitution de 1795, les colonies avaient été transformées en départements français, avec le même statut juridique du territoire et des personnes qu'en France.
Donc ça, c'est après la première abolition de l'esclavage en 1794.
Voilà. Ça empêchait évidemment de rétablir l'esclavage, puisque si on voulait rétablir l'esclavage dans les colonies, on pouvait aussi le rétablir en France. Alors, quand Bonaparte arrive au pouvoir, il va faire une nouvelle constitution. En décembre 1999, il y a une nouvelle constitution dite de l'an 8. Et dans cette constitution de l'an 8, il y a un article qui peut-être est passé inaperçu aux yeux de beaucoup de gens à l'époque, mais pas à Saint-Domingue. L'article 91 qui dit « Désormais, les colonies seront régies par des lois particulières ». Lois particulières, c'était la formule qu'on utilisait avant la Révolution pour désigner l'esclavage. On ne voulait pas utiliser le mot, les lois particulières des colonies. Donc, on avait rendu juridiquement possible le retour de l'esclavage. Mais Toussaint Louverture, lui, va interpréter cet article 91 en sens opposé. Il va s'appuyer dessus pour rédiger une constitution. Puisque la Constitution prévoit des lois particulières pour les colonies, ben il va en faire une.
Pourquoi as-tu essayé de tuer l'homme blanc ?
Un guerrier n'accepte pas l'esclavage.
Comment veux-tu lutter avec ça ?
Un guerrier n'accepte pas l'esclavage. Les blancs, tu peux les compter sur tes doigts. Mais nous, nous sommes tout un village.
Nous sommes quelques guerriers. Les autres, c'est des paysans, des pêcheurs, des tisserands.
Non, Ray. Les autres peuvent aussi devenir des guerriers. Si nous leur parlons.
Donc c'est un des éléments, pas le seul, hein, c'est un des éléments qui va déclencher l'intervention militaire qui va renverser Toussaint Louverture. En juin 1802...
À Saint-Domingue ?
Bien sûr, à Saint-Domingue. Hein, est arrêté, expédié immédiatement en France, et il va mourir le 7 avril 1803. Alors, il y a toute une tradition qui dit qu'il est mort de froid. Il semblerait que non, que le chauffage était suffisant, on lui a fourni le bois, on a les archives, hein, tout est noté évidemment. Il avait un médecin pour s'occuper de lui, il avait du bois pour se chauffer.
Il est où le corps de Toussaint Louverture aujourd'hui ?
La République d'Haïti a demandé à la France de restituer le corps de Toussaint Louverture pour le mettre au Panthéon national en Haïti. La France a dit oui, d'accord, mais on ne sait pas où il est. Alors pourquoi on ne sait pas ? Parce que Toussaint Louverture a été enterré dans le cimetière qui était au pied du dernier rempart de la forteresse. Les ossements des morts dans les tombes qui étaient là ont été dispersés dans les remparts, dans les fossés, et on ne retrouvera jamais. Il y a eu une légende qui a persisté longtemps, que le crâne de Toussaint Louverture aurait été retrouvé, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Paris, etc. Mais c'est évidemment un faux. Donc, on a prélevé de la terre, à l'endroit supposé où il y a eu le cimetière, la tombe peut-être pas, mais le cimetière, on a mis cette terre dans une urne, et on l'a envoyé à Port-au-Prince, escorté par un ambassadeur, etc. Et cette urne est au Panthéon National, on la voit.
Toussaint Louverture, de par son histoire, est devenu un véritable symbole de l'abolition de l'esclavage. Et c'est assez particulier parce que lui-même a été propriétaire d'esclaves à un moment donné dans sa vie.
D'abord, bien sûr, il a été esclave, puis il a été affranchi. Et puis, comme tout affranchi, tout esclave affranchi, tout nouveau libre, il va s'intégrer dans la société des libres et il va acheter des esclaves. C'est classique. Un ancien esclave ne se voit pas pourquoi il n'en aurait pas, lui aussi. Vous voyez ? Alors maintenant, une fois au pouvoir, la Constitution prévoit, de 1801, prévoit que l'esclavage est aboli à jamais à Saint-Domingue. Il n'y a plus d'esclaves sur la terre de Saint-Domingue. Tout ça, c'est le précurseur, celui qui a construit, on dit, un quasi-État. À l'intérieur de la colonie française, qui reste officiellement une colonie française, une dépendance de la France, mais il a mis en place les structures d'un État, avec une constitution, un gouvernement, une armée, une économie, puisqu'il a signé un traité avec les États-Unis. L'État louverturien, c'est le précurseur, c'est les prémices de ce que sera l'indépendance d'Haïti quelque temps plus tard. Lui, il n'a pas franchi le pas. Ben, s'il n'avait pas été arrêté et expédié en France, peut-être. Mais on ne refait jamais l'histoire.
Alors si l'on ne refait jamais l'histoire, en matière d'abolition de l'esclavage, il peut être utile de la défaire, cette histoire. afin d'en étudier les mécanismes, mais aussi les grands hommes, tantôt sacralisés, tantôt contestés, comme Victor Schœlcher par exemple, ce père de la seconde abolition de l'esclavage en 1848. Et sur la route des abolitions, un espace muséographique très moderne, ouvert en 2015 à Fessenheim, propose de mieux connaître son illustre enfant, Victor, entré au Panthéon en 1949, et sa famille, originaire du Haut-Rhin. Visite des lieux avec Anissa Bouyed, responsable du musée.
Donc on est dans le jardin du musée et puis on introduit la vie de Victor par ses voyages.
C'est ça qui l'a sensibilisé à l'esclavage, à la question de l'esclavage.
C'est ça.
Donc on voit juste en face de la map-monde, il y a des piliers, ouais, des totems.
C'est ça, et chaque totem contient en fait deux loupes avec des illustrations qui reprennent ses voyages, comme une scène de traite de nègres ou encore un comptoir européen sur la côte d'Angola.
Donc là on est devant celui du Sénégal où il est écrit 1847, donc c'est l'année à laquelle il est allé au Sénégal, je suppose.
C'est ça. Et la date la plus importante, c'est son voyage, son passage à Cuba en 1829. Et en fait, il est témoin d'une vente d'esclaves. Donc c'est la première fois qu'il voit ça. Donc il voit une jeune femme en train de se faire vendre dans le marché comme du bétail. Et c'est vraiment cette vision qui va le révulser et qui va faire qu'il va rentrer en France et décider de s'engager en politique pour l'abolition de l'esclavage.
On rentre dans le musée ? Donc là, on est donc à l'entrée du musée.
Voilà, on est accueilli par le buste en bronze de Victor Schœlcher. Ici, on explique pourquoi le musée est implanté à Fessenheim. Fessenheim est le berceau de la famille Schœlcher. Donc c'est une famille de cultivateurs fessenémois. Et ici, en face de nous, on peut voir une photographie de Marc Schœlcher, qui est le père de Victor. Donc il est né à Fessenheim, et puis dans les années 1790, il va émigrer à Paris pour apprendre le métier de céramiste, en fait. Mais il est agacé par l'accent des Parisiens qui n'arrivent pas à prononcer son nom, Schœlcher. Et donc il va rajouter ce « e » dans l'eau que vont garder tous les descendants directs de Marc Schœlcher. Voilà, on continue.
On continue.
Avec la présentation de plusieurs collections de la porcelaine Schœlcher. Donc on va voir que cette porcelaine, elle va jouer un grand rôle dans la vie de Victor Schœlcher. Donc il arrête l'école à 15 ans et va rejoindre son père justement pour commencer à travailler puisqu'il n'est plus à l'école.
Oui, parce qu'il est devenu commercial dans le cadre de l'entreprise de son père et ses premiers voyages ont été faits dans le cadre de cette activité commerciale où il était censé vendre la porcelaine à l'étranger.
Voilà, donc s'il n'avait pas eu la porcelaine, il n'aurait pas fait ce voyage, il n'aurait pas été témoin de cette vente d'esclaves et peut-être qu'il ne serait pas devenu le grand abolitionniste qu'il a été. Voilà. Donc Marc Schœlcher, lui, va décéder en 1832 et Victor Schœlcher sera désigné héritier de la manufacture. Et c'est grâce à cela que Victor Schœlcher va pouvoir s'enrichir. En fait, il va prendre une décision, c'est de liquider la manufacture. Donc ça va lui permettre de récupérer de très grandes rentes. Et grâce à cet argent, il va pouvoir se consacrer à l'écriture, à l'édition d'articles et de livres. Donc là, c'est son premier article qui critique l'esclavage en 1830, oui. Qui s'appelle « Des Noirs ».
Alors dans ses premiers écrits, non seulement il ne veut pas d'abolition immédiate, mais en plus il est extrêmement dur envers les esclaves en disant que comme ils sont dénués de toute éducation, ils ne peuvent pas devenir des citoyens comme les autres.
Anne Ulrich Girolet, historienne du droit.
Et c'est souvent ce passage qui est cité d'ailleurs pour critiquer Schœlcher. Et il va regretter énormément ces propos-là. Il le dit lui-même, il dit « j'étais trop jeune, trop fougueux, je n'avais pas encore assez réfléchi à la question ». Et c'est petit à petit, lorsqu'il étudie vraiment de plus en plus et qu'il voit les horreurs de l'esclavage, puisque lui se déplace, pour étudier cette institution de l'esclavage et pour avoir une approche comparatiste. Voir comment les autres pays soit ont aboli l'esclavage, soit gèrent encore l'esclavage et comment ils traitent les esclaves. Et il a une approche mais vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il s'est même attelé à démontrer toute l'économie de l'esclavage, alors que ce n'était pas un économiste du tout. Mais voilà, il est passé par tous les arguments pour ensuite les démonter un par un. C'est là le travail colossal de Schœlcher. Et il fait un nombre colossal d'articles dans les journaux de l'époque pour que l'opinion publique soit informée de ces horreurs-là. Et que si elle ne fait rien, elle devient complice de ça.
Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu abolir l'esclavage? Parce qu'il n'était plus uniquement enquêteur et reporter à ce moment-là.
Alors, Victor Schœlcher, lors de la révolution de février, hein, fin février 48, il était en Afrique, justement pour étudier l'esclavage. Et lorsque le gouvernement provisoire prend place, Arago, qui était le ministre des colonies du gouvernement provisoire, a nommé ce secrétaire d'État, Victor Schœlcher, et président de la commission d'abolition de l'esclavage. Parce que Arago a été convaincu par les arguments de Schœlcher. Et donc Schœlcher revient le plus rapidement possible en France et se retrouve comme ça à la tête de cette commission d'abolition immédiate de l'esclavage.
Citoyens députés, en travaillant à la constitution du peuple français, nous n'avons pas porté nos regards sur les malheureux hommes de couleur. La postérité aura un grand reproche à nous faire de ce côté, mais nous devons réparer ce tort. Inutilement avons-nous décrété que nul droit féodal ne serait perçu dans la République française. Vous venez d'entendre un de nos collègues dire qu'il y a encore des esclaves dans nos colonies. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de l'égalité. Proclamons la liberté des hommes de couleur. Président ! Président, ne souffre pas que la Convention se déshonore par une plus longue discussion. Oui. Votons ! Votons !
Oui. La Convention nationale déclare abolie l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes sans distinction de couleur domiciliés dans les colonies sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution.
Bravo, 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 bravo.
Alors c'est seulement en 1998 que l'ONU qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité. En France, en 2001 seulement, on a créé une journée de commémoration de l'esclavage qui est le 10 mai. Récemment aussi, on a un peu mieux mis en valeur l'esclavage dans les programmes scolaires. Donc on peut voir que d'un commerce qui commence au XVIe siècle, il a fallu attendre le XIXe pour avoir vraiment un courant abolitionniste fort et une abolition, et qu'encore aujourd'hui, il y a des choses à faire par rapport à la mémoire des abolitions.
Il y a beaucoup de personnes qui visitent ce musée. Il y a combien de personnes environ par an qui viennent ici ?
Alors à peu près, je dirais peut-être 2000. Donc c'est assez peu puisque le musée est assez récent et que Fessenheim n'est pas trop un endroit touristique, donc il faut se faire connaître. Après, il y a beaucoup de gens, notamment aux Antilles, puisqu'on est jumelé avec la ville de Schœlcher depuis des années, qui connaissent l'origine des Schœlcher et qui viennent se recueillir aussi ici.
C'est une star, Victor Schœlcher, aux Antilles. C'est pas comme en métropole.
Oui, il y a des bibliothèques Schœlcher, des hôtels Schœlcher.
Des chansons.
Ouais. Il y a même une dame qui m'a dit qu'elle avait vécu en Martinique et qu'elle pensait que Schœlcher était teint noir parce qu'elle voyait plein de choses dans le bâtiment au nom de Schœlcher en Martinique et elle a appris que c'était un teint noir.
Lorsque François Mitterrand a posé une rose sur la tombe de Victor Schœlcher en même temps que celle de Jean Moulin, tous les journalistes présents ne connaissaient pas Schœlcher et se demandaient bien qui était ce personnage dont ils n'arrivaient même pas à prononcer le nom, alors qu'il est au Panthéon. Hein, et Schœlcher, je pense, fait partie de cette histoire, pas très glorieuse, hein, de l'histoire française, mais ce n'est pas en cachant ce qui n'est pas glorieux, qu'on rend hommage justement au combat de ces Français dont Schœlcher a fait partie. Combat parallèle aussi évidemment aux esclaves eux-mêmes, hein, qui ont mené des révoltes, qui se sont battus, hein, pour que l'abolition soit proclamée en France. Mais Schœlcher, dès 1838, hein, donc extrêmement tôt, revendique une abolition immédiate. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès qu'on abolit, les esclaves deviennent des citoyens. Et ne sont pas contraints de travailler dans la plantation dans laquelle ils sont, etc. Contrairement à l'Angleterre, qui a aboli l'esclavage plus tôt que nous, mais qui a prévu une période de plusieurs années de travail forcé. Abolir l'esclavage, c'est une chose, mais quid des affranchis ? Doivent-ils avoir l'égalité juridique ou pas ? Dans plein d'autres pays où l'abolition de l'esclavage a été décrétée ou votée par une assemblée, l'égalité juridique n'était pas acquise. Regardez les États-Unis. Ça a duré plus d'un siècle, la ségrégation. Hein ? En France, on n'a pas eu cette période de ségrégation grâce à Schellcher, parce qu'il a imposé l'égalité juridique et politique, avec cette petite nuance hein, pour certaines colonies, notamment en Algérie et en Inde. Mais dans les autres colonies, l'égalité est pleine et entière. Alors après, ça ne veut pas dire que ça s'est traduit sur le plan social et économique. Hein. Et là, c'est la grande question de la terre. Hein. Que deviennent les terres ? Qu'allons-nous faire des terres ? Et c'est là où il n'a pas eu le temps d'organiser l'économie en fait, des colonies. Et il n'a pas eu le temps d'imposer l'indemnité pour une restructuration économique des colonies qui avaient l'esclavage. Puisque l'Assemblée nationale ensuite ne va indemniser que les colons pour dépossession de leur propriété, en fait, hein, puisque l'esclavage était légal. Donc c'est un peu comme une expropriation publique, si vous voulez. Et cette Assemblée nationale n'organise pas économiquement les colonies. Et ça, c'est le grand regret de Victor Schellcher.
Un regret, une plaie ouverte surtout, celle de la colonisation qui va succéder à la période de l'esclavage. Et si les colons ont été indemnisés, les esclaves, eux, bien sûr, ne le seront jamais. Laissant la revendication des réparations financières à ce crime contre l'humanité ouverte et encore vive aujourd'hui. Reste enfin la mémoire et les commémorations officielles qui, chaque année en France, ont lieu le 10 mai à Paris, dans le jardin du Luxembourg, face à une sculpture de chaîne d'esclaves brisée.
Quand on veut commémorer la Shoah, on va où ? On va au Veldiv, on va à Drancy, on va au Stutthof en Alsace, on va sur les lieux mythiques, les lieux historiques. Pourquoi, pour la traite négrière, l'esclavage et l'abolition, on va dans un lieu anonyme à Paris ? Pourquoi on ne va pas à Nantes ? Pourquoi on ne va pas au Fort de Joux ? Pourquoi on ne va pas à La Rochelle, à Bordeaux ? Pourquoi ? Moi je dis pourquoi ? Moi j'ai posé la question. Mais derrière, j'ai des centaines, des milliers d'affrontillés qui disent « Mais pourquoi notre mémoire, on la met dans un coin ?» du jardin du Luxembourg, là où le reste de l'année il y a que des pigeons qui viennent chier, des joggeurs. On ne mériterait pas un lieu, un vrai lieu historique. On ne veut pas faire comme en Angleterre où il y a un grand musée à Liverpool et puis point la ligne, ce que certains revendiquent, on est contre. Un grand musée à Paris, il y aura 100 000 visiteurs, pas plus, alors que tout ce qu'ont fait les collectivités en province, métropole, mais en Outre-mer, il y a 1 500 000 visiteurs sur tous nos sites et lieux de mémoire. Donc ça sert à rien d'aller vouloir faire un grand musée national à Paris, c'est idiot et stupide. Alors qu'il y a des choses à Nantes, à Bordeaux, qu'on peut renforcer, développer et mettre en réseau. Parce que l'esprit de la loi de 2001, c'était ça. C'est que cette mémoire doit intégrer le récit national. C'est pas que l'histoire des Antillais, elle est partagée par tous. Métropolitains d'intérieur, parisiens, Antilles, etc. Alors c'est une mémoire un petit peu secondaire, une mémoire marginale. Alors qu'on a des lieux mythiques, un président de la République irait à Nantes, il y aura un discours fort. Il n'y a aucun... Citez-moi un discours fort dans l'histoire de la mémoire de l'esclavage. Quel président de la République a fait un discours fort sur la mémoire de l'esclavage, la traite, etc. Il n'y en a pas. On l'attend toujours.
Eh bien, en attendant, prenez donc, pourquoi pas, la tangente vers l'Est sur la route des abolitions, une initiative pionnière en métropole que défend ardemment Philippe Pichot, qu'on vient d'entendre. Alors, pour préparer votre voyage, vous retrouverez sur notre site www.rfi.fr des liens utiles. Céline Develay-Mazurel, Cyrielle Bedu et Nicolas Benita, on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, retrouvez-nous en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Écoutez, vous voyagez.